Bonjour chacun. Content d'être avec vous.
Quel privilège d'être avec vous ce grand jour de baptême. Avec toi, Raphaël, avec qui on a aussi cheminé un peu. Avec toi, Simon, je viens de faire ta connaissance aujourd'hui. Et à vous, membres de la famille, mais aussi à vous, membres de cette église de la rue de Moniteur, quelle joie de méditer ensemble la parole de Dieu. Bravo à tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui sont actifs pour que un baptême ou des baptêmes ont lieu. C'est du travail dans son ensemble. J'avais un peu peur que l'un d'eux allait tomber tout de suite dans le baptistère parce que la porte semble être trop proche du baptistère. Bon, ça, c'est quelque chose à voir pour le futur, les amis. Mais magnifique aussi la chorale. Ça fait de la joie à entendre tout le monde en train de célébrer ces moments importants dans la vie de ces deux hommes. Alors, prions ensemble que le Seigneur nous éclaire sur ce qu'il a à nous dire à travers ce texte que nous avons lu, Actes chapitre 8. Oui, notre Dieu, nous te louons pour le fait que tu nous parles, suprêmement tu nous parles en Jésus-Christ, et tu nous donnes par ton esprit le moyen de nous approcher de toi et de trouver en lui grâce, paix, miséricorde, espérance. Et donc, sois avec nous, nous te prions, pour que nous puissions, chacun d'entre nous, trouver ces choses encore aujourd'hui. Et nous te demandons cela pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, des baptêmes témoignent de la richesse de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est super important, cela, pour chacun d'entre nous de découvrir cela. Et si on veut reformuler une illustration que l'écrivain C.S. Lewis donnait dans le temps, devenir croyant en Jésus-Christ, c'est l'équivalent de découvrir la joie de manger une bonne entrecôte frite avec une bonne bière belge au lieu de manger un McDonald's avec un hamburger en plastique et avec un coca. D'un côté, McDo, c'est rapide, et apparemment, lorsqu'on est jeune, ça donne un peu de plaisir dans l'immédiat de manger de tels trucs. Mais ça passe. Cela ne satisfait pas. Mais dans un bon bistrot de la capitale, si cela existe encore, déguster une bonne entrecôte saignante à point, à votre choix, c'est comme le jour et la nuit avec McDo. C'est supérieur à tous égards. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je me souviens en fait toujours de ma grand-mère lorsque je mangeais dans un pub britannique avec la famille. Et elle a commandé pour nous des bons hamburgers, pas de McDonald's à ce moment-là. Et j'étais trop jeune pour apprécier la bonne qualité. Et j'aimais avec mes petits amis de 12 ans être plutôt à McDonald's. Et elle m'a dit devant toute la famille, « Steve !» Où elle m'appelait probablement Steven, parce que j'avais un peu peur de ma grand-mère. Et donc, elle m'a dit, « Steven, n'est-ce pas meilleur qu'un McDonald's ?» Et j'avais envie de dire, « Non, non, c'est pas meilleur !» Mais j'étais aveugle. Si vous voulez, mon témoignage à ma grand-mère à ce moment-là, c'était le témoignage d'un homme non converti. Et un homme non converti dans le sens chrétien, il ne voit pas la valeur de s'identifier à Jésus-Christ. Il voit que ce qu'il a dans sa vie suffit pour lui. Il ignore qu'il y a de loin meilleur ailleurs. Donc il continue à manger son lot d'équivalent de McDonald's tous les jours, de par sa vie professionnelle, de par sa vie intime, de par sa vie de loisirs, sa vie de famille, ça lui suffit, c'est bon ça pour lui. Ou en tout cas, il ne sait pas qu'il y a de meilleur. Et donc il se dit, il faut se contenter avec ce que je mange sur mon assiette. Mais l'homme converti découvre ce qui est de loin meilleur, plus satisfaisant, qui donne un espoir solide, malgré les déceptions, les frustrations de la vie telle qu'elle est aujourd'hui. et le baptême de ces deux jeunes hommes de ce matin témoigne qu'ils chérissent la bonne nouvelle de Jésus-Christ au-dessus de tout autre plat qui se trouve sur leur assiette, si vous voulez. L'Église de Jésus-Christ, réunie ici ce matin dans cette église locale, se réjouit de ce témoignage, car le baptême s'est accordé par l'Église au nom de Jésus-Christ. Et le baptême fait signe que nous appartenons à la famille de Dieu, le peuple de Dieu, que Dieu lui-même est en train de construire encore aujourd'hui. Alors, ces deux hommes s'identifient avec Christ et son Église, publiquement, devant vous, les témoins. C'est important de faire cela. Et c'est courageux, n'est-ce pas, de faire cela. Car s'identifier avec Christ aujourd'hui n'est pas toujours à la mode. Et si j'ai choisi ce baptême dont nous venons de lire à la fin de Actes chapitre 8 comme notre texte de ce matin, c'est en partie parce que le contexte de Actes 8 n'était pas un contexte facile des chrétiens. Il suffit de lire juste quelques versets plus haut dans le chapitre 8. Parce qu'au verset 1 de ce chapitre, on entend qu'il y a eu une grande persécution sur l'Église, où ce personnage Saul ravageait l'Église. Et c'est comme ça, dans l'Église de Christ, il y a de l'opposition par rapport à ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais ça n'empêche pas que la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus, avance dans le monde, à travers même la persécution. Parce que, encore plus tôt dans ce chapitre, lorsque les autorités à Jérusalem ont expulsé des chrétiens de Jérusalem, où se trouvaient-ils? Le verset 4 du chapitre 8 nous dit qu'ils allaient dans la Judée et la Samarie. Et là où ils se trouvaient, ils propageaient cette bonne nouvelle. Et c'est ça notre prière pour chaque chrétien de cette église, que nous continuons là où nous nous trouvons, de propager la bonne nouvelle. Et c'est là en Samarie où Philippe, un évangéliste, croise cet homme éthiopien, à partir du verset 26, c'est là où nous avons lu. Et ce récit que nous venons de lire, c'est la première fois dans le livre des Actes, dans donc le Nouveau Testament dans son ensemble, nous voyons ce que nous appelons une conversion d'un individu précis. On entend parler que la parole de Dieu s'est répandue, qu'un grand nombre se sont repentis, se sont tournés vers le Christ. Mais ici, c'est la première fois où on entre en détail dans la vie d'une seule personne. Et à la fin de ce récit, cette personne, cet Éthiopien, il se fait baptiser. Si vous voulez, cet homme donc nous donne un modèle de ce que c'est une conversion. Quelqu'un donc qui peut se faire baptiser par la suite. C'est un modèle, mais il y a des éléments exceptionnels. Si vous vous dites, mais attendez, est-ce qu'on s'attend à tous ces éléments encore aujourd'hui? Peut-être vous avez remarquez cela, le verset 26 démarre l'histoire en disant que l'ange du Seigneur dit à Philippe qu'il doit aller quelque part. Est-ce que l'ange du Seigneur a dit ça à Paul ce matin, qu'il devait se rendre ici présent? Je ne pense pas. Le verset 36 nous présente d'ailleurs un baptême spontané qui n'est pas opéré dans le contexte d'une église locale. Mais il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas d'église locale dans cette partie de la Judée. Et lorsque l'Éthiopien sort de l'eau, verset 39, nous lisons que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et de nouveau, je ne sais pas si d'ici peu, Paul sera enlevé pour aller ailleurs. Tu peux aller dans mon église si tu veux, Paul. Ça va faire de la joie pour nous. Mais probablement, il ne va pas agir de cette manière. Là, ces éléments exceptionnels ne se reproduisent pas aujourd'hui. Non, le Seigneur signale à travers ce ministère bien particulier de ce Philippe à quel point c'est un ministère qui vient du Seigneur. Effectivement, ce qui se passe est remarquable et cela nous permet à notre tour de suivre l'enseignement que nous donnent ces premiers témoins de la bonne nouvelle de Jésus. Leur témoignage est approuvé par Dieu. Nous pouvons donc nous fier sur ce modèle, sur le contenu que le Seigneur nous donne de ce que c'est une vraie conversion. Alors, on va faire ça en posant trois questions très simples. D'abord, la première question, c'est qui est-ce cet homme qui se convertit? Verset 27, c'est un Éthiopien. Éthiopien, à l'époque, c'est une région qui se trouve aujourd'hui plutôt au Soudan. Et il est eunuque. Alors, selon la loi de l'Ancien Testament, une telle personne est exclue de la communauté. Exclue parce que rituellement, il est impur, méprisé par la communauté. Donc, il y a un côté où cet Éthiopien ressemble à ce méprisé en Israël. Mais il y a un autre côté que cet Éthiopien, aux yeux de notre monde à nous, est quelqu'un de bien respecté. Vous voyez ça? Le texte nous dit qu'il était haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, responsable de tous ses trésors. Et c'est le ministre, donc, de finances de toute la région. Donc, un homme, d'un côté, pauvre spirituellement parlant, mais riche matériellement parlant. Il a un poste important. Il a des moyens considérables. Le fait qu'il a lui-même un rouleau du prophète Ésaïe de l'époque est un indice de ses moyens considérables. La bonne nouvelle de Jésus ne respecte pas des divisions ethniques, de race, de langue, de nationalité, mais en plus ne respecte pas les divisions sociales que nous voyons encore dans notre société à nous, de classe, si vous voulez. Non, malgré son standing dans la société, voici un homme qui a soif, spirituellement parlant. Car la réussite dans ce monde n'implique pas que nous n'avons pas besoin de ce que Jésus-Christ nous offre. On peut donner l'impression parfois dans nos églises que l'évangile, ce n'est que pour les nécessiteux dans ce monde. Mais ça sera aussi du snobisme à l'inverse de dire cela. Parce que ceux qui gagnent bien leur vie, ceux pour qui les choses se déroulent plutôt bien, eux, ils n'ont pas besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Bien sûr que oui, parce que ultimement, le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous révèle à quel point nous sommes tous nécessiteux devant Dieu. Et donc, première chose à noter, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pour tout type de personnes, peu importe notre standing dans la société. Je me souviendrai toujours d'un culte que j'ai en Angleterre, à Londres, auquel j'ai assisté en tant que jeune avocat en formation. C'était ça mon arrière-plan après mes études. Et je regarde quelqu'un qui... Oh, c'est une grande assemblée, il y a à peu près 300-400 personnes. Et dans la rangée derrière moi, j'observe à ma grande surprise, parce qu'il n'était pas régulier au sein de cette église du tout, le juge le plus haut placé d'Angleterre de l'époque. Et j'étais jeune étudiant en droit, en formation. Et je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là? Et normalement, j'aurais aucun accès à cet homme. Même parler à cet homme, c'était totalement inconcevable. Il était tellement supérieur que moi. Et un peu comme Paul l'a fait au milieu de ce culte, il a dit, voilà, on va avoir une petite pause lorsque les enfants partent. Il demandait, alors maintenant, vous pouvez vous tourner et échange avec la personne derrière vous, Et la personne derrière moi, c'était le juge le plus haut placé d'Angleterre. Et il me demandait, comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis étudiant en droit, etc. Et j'étais un peu bouche bée devant lui. Mais ça m'a émerveillé en tant que jeune chrétien que la foi chrétienne arrive encore aujourd'hui à rassembler des personnes de tout arrière-plan, de tout type. C'est la gloire de Dieu. Parce que et le juge le plus haut placé d'Angleterre et un petit imbécile comme j'étais à l'époque, tous les deux, nous avons besoin de Jésus-Christ. Tous les deux, nous nous réjouissons de connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cet évangile, c'est pour tous, pour Raphaël, pour Simeon, et alors aussi pour vous ce matin. Peu importe votre standing dans la société. Dans notre première question, c'était « Qui est-ce cet homme qui se convertit ?» Notre deuxième question, c'est « Par quel moyen est-ce qu'il arrive à comprendre le message de Jésus-Christ ?» Par quel moyen comprend-il ce message ? Verset 30 de notre texte, Philippe courait à côté du char et il entend l'Éthiopien lire un texte biblique, très probablement à haute voix à l'époque, car c'était plutôt la tradition. Et Philippe, donc, il prend l'initiative. « Comprends-tu ce que tu lis ?» il demande. L'Éthiopien répond, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Donc, il y a deux choses qui découlent de cet échange, n'est-ce pas ? De un, il nous faut l'Écriture, ce que Dieu a dit à l'homme. Mais de deux, il faut aussi quelqu'un qui explique ce que l'Écriture, la bonne nouvelle, signifie. C'est très rare, en fait, aujourd'hui, que quelqu'un, rien que par sa propre lecture de la parole de Dieu, arrive sans le moindre aide de la part de quelqu'un d'autre à se confier en Jésus-Christ. Ça arrive de temps à autre, mais c'est très rare. Et ça, ce n'est pas une question de capacité intellectuelle. L'Éthiopien, après tout, avait ses capacités intellectuelles. Mais c'était plutôt une question spirituelle. Tel est notre aveuglement en ce qui concerne les choses de Dieu. Que Dieu, par son esprit, doit nous ouvrir les yeux. Au travers de sa parole, expliqué par des personnes compétentes en la matière. Alors, ce n'est pas qu'il y a deux classes de chrétiens ici ce matin. Des chrétiens, si vous voulez, ordinaires et des chrétiens illuminés qui peuvent enseigner. Non. Au verset 4 du chapitre 8, il était question des chrétiens ordinaires qui allaient proclamer la parole là où ils se trouvaient après cette persécution. Le rôle de tout chrétien, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ par tous les moyens possibles. Et l'enseignement dont il est question ici ne signifie pas uniquement donc des moments formels comme une prédication dans une église. Non, Philippe, il est où? Il est assis dans un char avec un Éthiopien dans le désert à midi. Et donc c'est souvent à travers des moments informels que le Seigneur se sert de ces moments pour que d'autres soient enseignés dans cette bonne nouvelle. Le contact que nous avons les uns avec les autres, peut-être après ce culte. Vous pouvez échanger avec quelqu'un qui vous explique un peu plus sur ce que c'est la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas que ça se fait à la maison, en rentrant. Peut-être qu'il y a un enfant dans la famille qui a une difficulté à l'école et une maman explique à cet enfant à quel point l'amour de Dieu dépasse tout souci que nous pouvons expérimenter à l'école. Il se peut que ça se fait au travail, lorsqu'un collègue démarre une conversation concernant la foi. Qu'est-ce qu'il y a eu de neuf pour toi ce week-end? Ah, tu sais, en fait, j'ai écouté quelque chose de très intéressant à propos de la foi. si on ose partager notre foi, on verra que le Seigneur donne encore des occasions pour témoigner. Il se peut que ça se fait en vacances ou lors d'un camp chrétien, comme c'était le cas, d'après ce que Raphaël nous a dit. Mais il faut toujours donc ces deux éléments, l'écriture et l'explication de l'écriture. Et donc, permettez-moi de vous dire ceci, si vous êtes intéressé ce matin à la foi, ça fait bon signe que vous voulez en savoir plus. Cela signifie que vous cherchez plus que juste le cheeseburger de McDonald's sur votre assiette. Sondez vous-même les Écritures. Faire cela, c'est une belle aventure. Dites-le à quelqu'un, même dans cette église. Et cette personne se réjouira de vous aider à aller de l'avant. Donc, deuxième question, le moyen par lequel l'Éthiopien arrive à comprendre le message. Mais notre troisième et dernière question, en quoi donc consiste ce message? En quoi consiste ce message? Verset 28, nous avons déjà entendu que l'Éthiopien lisait le prophète Ésaïe. Et après avoir avoué son besoin d'aide, verset 31, il invite Philippe à monter s'asseoir avec lui dans le char. Et le passage de l'écriture qu'il lisait, c'était lequel? Ésaïe 53. Alors, ce n'est pas un hasard que le premier texte utilisé dans l'ère chrétienne pour la conversion d'un individu, il s'agit de Ésaïe 53. À la fin de sa lecture, l'eunuque demande à Philippe, verset 34, « De qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? » C'est la bonne question à poser. Et la réponse, c'est ce que ça parle de Jésus-Christ. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, ce passage, Ésaïe 53, est cité pour parler de Jésus et de la bonne nouvelle. Et du coup, verset 35 de notre texte, pas de surprise que Philippe commence avec cette écriture pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Les versets cités dans Acte 8 parlent du traitement de Jésus. Verset 32, il a été mené comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'ouvre pas la bouche. De l'injustice dont il faisait preuve aussi, verset 33, dans son abaissement, son droit a été enlevé. Et sa génération, qui la racontera, car sa vie est enlevée de la terre. Mais pourquoi un tel traitement pour ce serviteur? Les versets d'Ésaïe 53 qui entourent ces citations en Acte 8 nous aident. Et pour cela, Nicolas va projeter pour nous ces deux versets 5 et 6 de Ésaïe 53 que l'Éthiopien aurait eu aussi en tête. Parlons de Jésus donc. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez, au cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a un échange. Un échange terrible, mais un échange aussi terriblement beau. Au verset 6, verset 6 d'Ésaïe 53 que vous avez ici, la déclaration de Dieu à notre sujet est claire. Nous sommes, si nous ne sommes pas encore en Jésus-Christ, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Alors certaines personnes font ça de manière flagrante. La drogue, l'immoralité, scandale. Ils affichent avec la main levée leur rébellion. Mais d'autres font ça de façon gentille. C'était en quelque sorte le cas, je pense, pour Raphaël et Simon en entendant leur témoignage. tout en respectant grosso modo les lois de la société, la loi même de Dieu, d'une certaine manière. Mais dans le cœur de chacun d'entre nous, nous suivons notre propre voie. Nous déterminons nous-mêmes, selon nos critères à nous, les limites de notre obéissance à Dieu. Et ça fait preuve d'orgueil d'agir ainsi. Alors que dit Ésaïe 53 en ce qui concerne le peuple de Dieu? Verset 5, est-ce qu'il dit ceci? Nous étions blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités. Verset 6, l'Éternel a fait retomber sur nous notre iniquité. Pas cela aurait été juste, que Dieu nous traite de manière juste par rapport à notre péché. Non, ce que nous lisons, c'est pas du tout ça. Ça parle de Jésus-Christ, envoyé par le Père dans le monde pour sauver ceux qui se tournent vers lui. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu lui-même, en la personne de son Fils, subit la punition que notre péché exige. Le châtiment est tombé. Dieu est juste contre le mal. Il n'est pas indifférent en ce qui concerne notre péché. Mais le châtiment, au lieu de tomber sur nous, est tombé sur lui. Il fallait que ça soit le cas. Sinon, le châtiment doit tomber sur nous. Il y avait un écrivain irlandais du 19e siècle qui apparemment a assisté à une réunion chrétienne où on parlait d'Ésaïe 53, de l'échange que nous offre la foi chrétienne. Et il est sorti de cette réunion et il disait à ceux qui l'entouraient, « Vous savez quoi? Je payerai moi-même pour mes propres péchés. » À quel point il ignorait la vérité de ses propos. Parce que c'est le cas. Nous payerons nous-mêmes une punition éternelle, l'enfer, loin de Dieu pour l'éternité, si le châtiment tombe sur nous. Mais Jésus est mort pour le péché. Et pas simplement le péché, chers amis, mais le croyant en Jésus-Christ dit qu'il est mort pour mon péché. Et cela donne suite à une espérance, à une joie dont témoignent Raphaël et Simon de pouvoir passer par les eaux de baptême. C'était le cas pour l'Éthiopien, si vous voyez ça verset 39. Il poursuivait son chemin tout joyeux. Bon, quel changement! Au lieu d'être un enfant adolescent, oh, est-ce que je dois encore être à l'église? Je dois encore respecter ce que ma mère demande, ce que ma famille me demande? Oh, ok. Oh, j'assiste encore. Non. Dieu œuvre dans le cœur pour qu'on découvre la bonté de Jésus-Christ. Et on se termine en étant joyeux, malgré les circonstances, parfois encore difficiles, dans la vie, dont témoignaient également Raphaël et Simon. C'est Jésus-Christ qui nous donne cette joie, chers amis. C'est Jésus qui garantit notre statut en tant qu'enfant de Dieu, gracié, membre de son peuple. Ça, c'est le cœur de la bonne nouvelle. ce qu'il a fait, non pas ce que nous devons faire. Et donc nous avons vu trois choses, pour résumer. Qui est-ce qui se convertit? Ben, c'est un Éthiopien. Cet évangile est pour tous ceux qui se tournent à Christ. Ben, quel moyen est-ce qu'il arrive à comprendre ce message, cet Éthiopien? Par l'explication de la parole de Dieu, de la part de Philippe. Et en quoi consiste ce message, cette bonne nouvelle? Jésus qui se donne comme un substitut pour prendre sur lui la punition qui devait tomber plutôt sur nous. Et voici ce qu'il faut pour être baptisé, chers amis. Reconnaître mon besoin de pardon, peu importe qui je suis dans la vie. Comprendre que ce pardon nous est offert par la bonne nouvelle de Jésus. Et la bonne nouvelle de Jésus qui tourne autour de la mort de Jésus-Christ sur la croix, de sa résurrection à la vie. Verset 36, il se trouve en continuant sur le chemin à côté d'un point d'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé, de recevoir le baptême? Bah, une telle question indique qu'il a déjà reçu l'instruction du baptême, n'est-ce pas? En effet, il n'y a rien qui empêche de le recevoir. Il est baptisé. C'est un signe d'initiation dans la foi. Raphaël, Simon ne prétendent pas être des grands spécialistes de la foi chrétienne. Non, ils ont encore un cheminement à faire. Mais ils appartiennent à Dieu, à la famille de Dieu, graciés par Dieu. Et ce signe donc très visuel d'être plongé dans l'eau, de sortir de l'eau, témoigne d'avoir démarré dans la foi. Témoin de ce qui s'est passé à l'intérieur de leur cœur. D'avoir compris que le baptisé a saisi la valeur profonde de ce qui se trouve sur leur assiette. La mort de Jésus-Christ à leur place. Plonger dans l'eau, c'est ce symbole de la mort. Ce que je mérite, la punition de Dieu. Sortir de l'eau, ce que nous avons vu. C'est ce symbole de revenir à la vie, une nouvelle vie, pardonnée, avec une espérance. Oui, ni Raphaël, ni Simon sont encore parfaits. Même moi, figurez-vous, je ne suis même pas parfait, même pas Paul. Il y a encore un cheminement à faire. Mais c'est une vie que nous partageons, qui est remplie d'espérance, car nous appartenons à Christ. Nous faisons partie de son peuple. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême? Demandez ce nouveau converti. Alors c'est une bonne question. Là où nous pouvons terminer ce matin. Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir le baptême? Peut-être c'est le début d'un parcours pour que vous aussi vous puissiez venir à la foi en Jésus-Christ. C'est ça ce qu'il vous faut pour recevoir le baptême. Et si nous sommes baptisés, chers amis, ce n'est pas que nous sommes là en train de dire « Voilà, regardez-moi, je suis baptisé. » D'être fiers de nous-mêmes. Ce n'est pas que Raphaël et Simon, après avoir fait ce signe, ce sacrement, si vous voulez, puissent se dire « Super, qu'on doit féliciter en quelque sorte Raphaël et Simon. » Non. Ce n'est pas vraiment un moment pour les féliciter. C'est un moment pour que eux, ils sont fiers de Jésus-Christ et que nous pouvons remercier le Seigneur pour leur travail, son travail dans leur vie. Donc, c'est ça ce que nous allons faire, chers amis. Nous ne voulons pas attirer l'attention sur nous, le chrétien qui s'affiche publiquement à son église, veut attirer l'attention vers lui. Et ce qu'il a fait. Et donc, faisons ça ensemble, en priant pour terminer. Je vous invite à la prière. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous te louons, notre Dieu, pour Jésus. Te louons pour la joie d'être pardonné par le Seigneur Jésus. De bénéficier de cette espérance d'une vie pour l'éternité auprès de lui. Et nous te prions de nous fortifier, chacun, Raphaël, Simon, mais chacun qui t'appartient ici, pour que nous voulons continuer à témoigner de tes bontés. Te prions, Seigneur, pour ceux ici présents qui réfléchissent, qui se demandent si cette foi, ça peut être pour eux. Nous te demandons, Seigneur, d'œuvrer par ton esprit pour les mener au pied de la croix, là où ils puissent confesser leur péché, puissent confesser le Sauveur. Donc, sois avec nous, nous te prions, pour la gloire de ton nom. Amen.